Bien, vous avez lu, je crois, Matthieu chapitre 2, j'espère, chez les dames, chez les hommes, en tout cas, on a lu Matthieu chapitre 2, tout le chapitre. Et à cette période de Noël, mois de décembre, on aime bien reprendre un petit peu les textes qui tournent autour de la naissance de Jésus-Christ. Et je vais relire les 12 premiers versets seulement de ce chapitre 2. Alors, on va être très attentif quand on va le lire. Après la lecture, il faut essayer de trouver un titre à toute cette section. Donc, essayez d'être attentif à tout ce que vous lisez. Et puis, on va essayer de trouver un titre. Vous allez me proposer. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Alors, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, on va s'arrêter là pour la lecture. Alors, est-ce que vous avez un titre qu'on pourrait donner à cette section, en première lecture ?
Circonstances de la naissance de Jésus.
Oui. Circonstances de la naissance de Jésus et sa protection. D'accord, très bien. Bien. Est-ce que quelqu'un d'autre ? L'adoration de l'enfant, d'accord ? Très bien. Oui. Pareil, à peu près la même chose. Très bien. D'autres ont des idées, d'autres idées? Comment on pourrait intituler cette partie?
Reconnaître le roi.
Oui. Ensuite, pour faire quoi? Oui, reconnaître le roi, et tu poses une question. Pour faire quoi? D'accord. Très bien. Pas mal, ça. Très bien. Reconnaître le roi et pour faire quoi? Donc, ça nous laisse avec une question. D'autres, peut-être? Vous avez d'autres idées? Une incarnation atypique. Ah bon, il faudrait que tu m'expliques. Hein. Il y a beaucoup de mots que je ne comprends pas. Là. D'accord, une incarnation atypique. Très bien. Alors, on va travailler ensemble avec ce texte un petit peu, avec des questions. Donc, je vous ai fait des papiers avec des trous, mais j'ai pas mis le titre. Hein. Donc, vous allez. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites là qui sont bonnes. Je vais en garder une, merci. On va voir ça sous forme de quatre questions, ici, ce texte avec quatre questions ce soir. Premièrement, voilà, on va faire notre petite étude. Quels sont les personnages de ce texte? La première question qu'on va se poser. Donc j'ai mis des trous, on peut répondre normalement assez facilement à ces questions. Quels sont les personnages de ce texte? En gros, on peut dire les principaux, peut-être, hein, c'est peut-être cela. Ça va, vous avez tous un petit papier. Normalement, vous devez avoir votre carnet. Je crois que vous avez acheté un carnet, non? Depuis dimanche, avec un stylo. Non? Qui a acheté son carnet depuis dimanche? Ah, c'est bien. Tu avais déjà, Sylviane, avant? Tu l'as acheté depuis dimanche? Tu l'avais déjà, d'accord, c'est bien. C'est bien. Il y en a qui l'avaient déjà, c'est vrai, beaucoup même qui l'avaient déjà. Les autres, on vous encourage à acheter un carnet pour prendre des notes. C'est vraiment important, c'est vraiment important. Ça montre l'importance qu'on attache à aux choses de la parole de Dieu. On a besoin de cet effort. Alors, quels sont les personnages? J'espère qu'on va pouvoir avancer vite. Quels sont les personnages qu'il y a? Il y a Jésus. Très bien. Donc, vous pouvez marquer, hein. Bon, parfois, je vais dire certaines petites choses concernant les personnages, pas trop. Bon, Jésus, voilà. On n'a pas beaucoup de choses à dire parce qu'on, voilà. C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, hein. C'est le Messie. Celui qui est oint par Dieu. Donc ça va. Quel personnage encore? Hérode. Alors, qu'est-ce que vous savez d'Hérode?
C'est le roi.
C'est un roi. Donc, il était juif? Hérode? C'est un juif? Non, c'est pas un juif. D'accord. C'est un descendant, surtout d'Édom. On appelle ça un Iduméen, hein. Donc, il est descendant d'Édom. Il était, si vous voulez, juif de nom, quelque part, hein, et il avait été placé là par Rome, hein. Effectivement, il a été placé par Rome, mais il semble qu'il ait épousé une femme qui était descendante juive, hein. Alors je lis, par exemple, dans un commentaire, ceci, il dit, c'était un guerrier rusé et capable, un orateur et un diplomate. En temps de crise économique aiguë, il a redonné de l'argent des taxes prélevées auprès du peuple. Hein. Donc, il a redistribué. Ça fait penser à quelque chose, hein, avec la crise économique, le chômage et tout. On redistribue. Bon d'essence, etc. Tout ça. Oui, il y a des choses qu'on retrouve ici. Hein. Donc, il dit que il a redonné donc de l'argent auprès du peuple. Et pendant la grande famine qui a eu lieu en l'an 25 avant Jésus-Christ, il a fait fondre divers objets d'or dans le palais pour acheter de la nourriture pour les pauvres. Hérode. D'accord? Donc, il a construit des théâtres, des pistes de course, etc. Et c'est lui-même qui a construit le temple, d'accord? Qui existait quand Jésus était là. Mais en même temps, à côté de ça, c'est un personnage extrêmement avide de pouvoir. Et donc, comme tous les personnages extrêmement avides de pouvoir, à cette époque en tout cas, relativement sanguinaire. Il fait tuer sa femme, son frère, sa mère et plusieurs de ses fils. Hein, il les a fait carrément tuer. Okay. Et quelqu'un avait dit, j'avais lu ça quelque part, il valait mieux être le chien d'Hérode que son fils, quoi. Hein, presque. Tellement il était terrible. Et on peut voir dans Matthieu, on n'a pas lu, mais dans Matthieu chapitre 2 au verset 16 et 18, où il est question de massacrer des enfants de zéro jusqu'à 2 ans, on peut voir jusqu'où il était capable d'arriver pour atteindre ses fins. Donc ça, c'est le personnage dont il est question, Hérode. Ensuite, quel autre personnage on trouve? Marie et Joseph. Donc là, on peut mettre, mais j'ai pas prévu de les mettre, eux, mais c'est vrai qu'ils sont aussi des personnages qu'on trouve dans ce texte. Pareil, hein, on va pas dire beaucoup de choses sur eux ce soir, mais il y a aussi, oui, les mages, donc qui venaient, la Bible dit ici, d'Orient, donc on les appelait parfois des qui venaient de Babylone, c'était des Chaldéens, Mèdes, Perses, etc. Alors on les appelait parfois prêtres, médecins, astrologues, voyants, interprètes de rêves, augures, devins, sorciers. Donc c'est un peu tout ce nom-là qu'on peut retrouver dans cette catégorie. Donc ce sont des personnes qui sont venues guidées, la Bible dit, par une étoile. Donc il y a beaucoup de pensées diverses, hein, qui ont circulé pour tenter d'expliquer ce que c'était que cette étoile. Certains ont parlé de comètes ou de choses comme cela. On ne sait pas trop exactement. Et je pense que Matthieu ne dit pas non plus beaucoup de choses là-dessus. Donc, c'est certainement que l'important n'est pas sur ce que c'est exactement que cette étoile. Mais en tout cas, c'est une manière divine par laquelle ils ont été conduits. Ça, on peut le dire. Hein. Et on le revoit après, un peu plus loin dans le texte, parce qu'il est dit au verset... au verset 12, par exemple, ils ont été divinement avertis en songe par Dieu. Donc on trouve, donc on a dit Jésus, Hérode, les mages, d'accord, donc qui sont des adorateurs venus d'Orient, et puis on trouve aussi, voilà, les principaux sacrificateurs et les scribes. C'était ici, on pourrait dire, l'autorité religieuse, les enseignants du peuple. Tous les sacrificateurs juifs étaient descendants de quelle tribu? De la tribu de Lévi, dont le premier sacrificateur a été Aaron. D'accord? Donc c'était les descendants de la tribu de Lévi. Aaron était le premier des sacrificateurs. Quand on parle ici des principaux sacrificateurs, il y avait mélangé avec eux les souverains sacrificateurs. Normalement, il y en devait en avoir un par an, mais il arrivait qu'à cette époque, apparemment, il y en ait plus d'un. Donc les souverains sacrificateurs, puis les sacrificateurs. Donc ils jouissaient d'un pouvoir religieux, mais aussi d'un certain pouvoir politique. Hein. Il y avait des choses qu'ils pouvaient faire au niveau de la loi. Donc c'était des gens qui étaient, quand on lit le Nouveau Testament, relativement opposés à Jésus-Christ. Vous vous rappelez tous les échanges qu'il y a eu entre les pharisiens, les sadducéens qui composaient un peu ces souverains sacrificateurs. Et puis les scribes étaient ceux qui étaient normalement versés dans la loi et dans le texte. Ils étudiaient, ils enseignaient aussi le texte, mais eux aussi étaient opposés à Jésus. Donc, pour une bonne idée du scribe, je crois, est donnée dans Esdras, quand on parle d'Esdras, où il est dit, Esdras 7:10, qu'Esdras était versé dans les Écritures et qu'il avait appliqué son cœur à l'étudier et puis l'enseignait aussi au peuple. C'est ça le travail du scribe. Et donc, ce sont ces gens-là, bien sûr, opposés à Christ, qui se retrouvent un peu dans ce texte de Matthieu. Donc ça, c'est la première chose, les personnages. Deuxièmement, quelle est l'attitude de ces différentes personnes, de ces différents personnages à l'annonce du Messie? Quelle est l'attitude? Alors, j'ai mis ici pour Hérode, pour les principaux sacrificateurs et pour les mages. Alors, pour Hérode, qu'est-ce qu'on peut dire? Il était furieux. Donc, il y a eu, oui, la fureur.
Il ne voulait pas un autre roi.
Il ne voulait pas un autre roi, oui. La ruse, d'accord, c'est tout. Vous êtes gentil avec lui, hein? Troublé, voilà. Oh ouais, il est troublé par cela. Pourquoi est-ce qu'il est troublé? Voilà, il y aura un trou. Il faut savoir que Hérode se faisait appeler le roi des Juifs, hein, aussi. Donc quand il entend où est le roi des Juifs qui vient de naître, c'est une catastrophe, hein, pour son pouvoir. C'est un homme avide de pouvoir. Tout ce qu'il a fait, il a fait des choses pour la ruse, pour plaire aux Juifs, faire des choses, etc., pour les gagner, hein, pour se faire accepter d'eux, mais en même temps, il était très sanguinaire. Donc, ça, c'est son attitude, mais il va plus loin que ça, que tout ce que vous avez dit. La cruauté, même, on peut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait massacrer les enfants. Donc, c'est le meurtre, le massacre, hein, le génocide, on dit ça, comme ça qu'on dit ça, je crois. Donc c'est quelque chose de très lourd. Hein. C'est l'attitude qu'il a à l'annonce du Messie, du roi des Juifs qui vient de naître, du sauveur du monde. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, les principaux sacrificateurs, quelle est leur attitude? Comment on peut les qualifier? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, je parle plus de leur attitude. Ça, c'est ce qu'ils ont fait sous la demande d'Hérode. Oui. Oui, d'accord. Tout ça, c'est ce qu'ils ont fait. Je parle de leur réaction, si vous voulez, leur attitude. C'est difficile à trouver, hein, ce qu'ils ont.
C'était pas méchant au départ.
Ouais. Ils ont? En fait, ils ont rien fait. C'est ça. Ils ont rien fait. Ils sont indifférents. La Bible ne dit pas qu'ils ont fait quelque chose. Ils disent juste qu'ils ont fait, oui. C'est-à-dire qu'ils ont répondu à la question d'Hérode. Hérode a posé une question, ils ont répondu. Mais en termes de, on voit même pas leur réaction, quoi. Hérode, il est troublé, il fait. Mais eux, Il est né ici, il va naître là, et puis c'est tout. Donc on pourrait dire ici qu'ils sont indifférents. Hein? Ils répondent avec précision à la question d'Hérode, mais ils demeurent, ils sont froids, indifférents. Ça ne leur fait ni chaud, j'ai dit qu'ils sont froids, mais ça leur fait, en français on dirait que ça fait ni chaud ni froid. Ça c'est les principaux sacrificateurs et les scribes, les religieux là ici, hein? Donc les gens qui ont une connaissance du Messie, en tout cas dans les prophéties, d'accord? Et puis les mages. Donc les mages, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici pour eux? Ils sont joyeux. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de leur attitude? Qu'est-ce qu'ils font? Essayez de regarder ça ici. Ils cherchent, oui. Ils sont extrêmement engagés dans leur recherche du Messie. Ils font un très long voyage en TGV, en Boeing, en Airbus, en voiture climatisée. Non, ils font un voyage à dos de chameau, la plupart du temps à pied probablement. Est-ce que c'était un voyage, à votre avis, facile à faire? Non, ça prenait plusieurs jours, mais est-ce que c'était un voyage en toute sécurité? À cette époque, devait exister des brigands, des gens sur les routes, etc. Donc, ils entreprennent un voyage qui est un voyage périlleux, et ils cherchent le Messie jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Donc, on voit ici cette ténacité, cette ferveur dans leur attitude. Et quand ils le trouvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent et ils l'adorent. Donc on a ici quand même des attitudes qui sont très différentes, hein, suivant les personnages. Hérode, les principaux sacrificateurs, et puis les mages. Alors c'est intéressant parce que les sacrificateurs et les scribes sont à côté de l'événement, ils sont froids, mais les mages sont extrêmement loin de l'événement et ils entreprennent tout un trajet pour venir et pour adorer le roi qui vient de naître. Hein. Donc c'est ce qu'on pourrait souligner ici. Alors j'ai une autre question ici que j'ai mise ici. Sur quoi ou sur qui ce texte se focalise-t-il? Sur le Messie, Jésus, j'ai entendu. Est-ce que quelqu'un d'autre pense autre chose? Les mages, c'est plus sur les mages. Le point de focalisation de Matthieu qui écrit, c'est qui? C'est Jésus, le roi. C'est ce qu'on voit ici. C'est lui dont il est question en premier. Jésus étant né, hein, n'est-ce pas? Et puis le verset 1 commence avec lui. L'objet du voyage des mages, c'est qui? C'est Jésus. L'objet du trouble d'Hérode, c'est qui? C'est Jésus. La question que pose Hérode concerne qui? Jésus. La réponse que donnent les scribes concerne qui? Jésus, hein, d'accord? Donc on voit que, en fait, c'est Jésus qui est le centre de l'histoire ici. Parfois on pourrait penser que c'est l'histoire des mages, hein, d'un voyage loin. Mais c'est Jésus, le roi, qui est le centre, et soit le but de Matthieu ici, donc je vous ai laissé des petits trous ici, le but de Matthieu dans son évangile, de montrer que Jésus est bien le... qu'est-ce que j'ai fait ici? Le but de Matthieu dans son évangile est de montrer que Jésus, petit trou, est bien le roi qui devait venir, le Messie attendu. Le but de Matthieu, c'est de montrer que Jésus est bien le roi qui devait venir, et le Messie attendu. C'est l'objectif de Matthieu quand il écrit l'évangile. Montrer que Jésus est le roi. Donc si on lit dans Matthieu 21, il y a une citation de Zacharie 9:9. Voici ton roi vient monter sur une ânesse, comme ça. Ouais. C'est ce qu'on trouve. Alors, ça c'est notre deuxième question. Troisième question ici maintenant. Qu'est-ce que Matthieu enseigne, parce qu'on dit que c'est Jésus qui est le centre ici. Donc, qu'est-ce que Matthieu enseigne concernant Jésus dans ce texte? Qu'est-ce qu'il enseigne concernant Jésus dans ce texte? Donc, premièrement, que Jésus est bel et bien le roi, on vient de le dire, le roi, le Messie. D'accord? Ça paraît clair, hein, ici. Donc, des personnes, et il montre que des personnes non juives qui viennent d'un pays éloigné avec cette question divinement conduite par Dieu. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Jésus est le roi est le roi, le Messie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il enseigne ici, c'est que Jésus accomplit les prophéties de l'Écriture. Alors, Matthieu insiste particulièrement dans son évangile sur cet aspect des choses. Et si vous lisez le texte que vous avez lu ce soir, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a plusieurs fois, déjà au verset 5, il est dit « Car voici ce qui a été écrit par le prophète », il cite. Ensuite, un peu plus loin, il me semble au verset 15, je sais pas si j'en ai sauté un peut-être, mais en tout cas, verset 15, il dit, d'accord, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Vous tournez la page au verset 17, il dit, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Donc, et là, il cite Jérémie, et puis il me semble qu'à la fin, il dit, verset 23, il dit que Joseph y vient demeurer de la ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et si vous lisez le livre de Matthieu, vous allez trouver ça plusieurs fois. Et donc, tout l'effort de Matthieu, c'est pour montrer que le Jésus historique n'est pas quelque chose qu'on a inventé, mais c'est vraiment celui dont il est question dans tout l'Ancien Testament. Et que Jésus qui a vécu sur la terre accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Donc, le point B ici, Matthieu montre en scène que Jésus accomplit les prophéties de l'Écriture. Hein, et si, je vous ai dit, on trouve à plusieurs endroits, on les a lus, hein, chapitre 2, et puis d'autres chapitres, tous à chaque fois référence au texte de l'Ancien Testament qui parle de Jésus. Troisièmement, Matthieu montre aussi que Dieu est intervenu, je sais pas comment je l'ai mis dans le trou là ici, que Dieu est intervenu de manière, ouais, on pourrait dire miraculeuse, j'avais mis surnaturel, mais miraculeuse c'est pareil, hein. J'avais mis surnaturel concernant le Messie, hein, ici. Les mages sont conduits de manière surnaturelle, hein, on pourrait dire, ici. Nous avons vu son étoile en Orient, c'est ce qu'ils ont dit ici. Et puis au verset 10, ils aperçoivent encore l'étoile, la même qu'ils avaient vue. Au verset 12, on voit qu'ils sont divinement avertis en songe. Encore verset 13, verset 19 et verset 22 disent que Joseph aussi est averti en songe. Si vous lisez tous les récits autour de la naissance de Jésus, vous voyez qu'il y a des anges, des songes, d'accord? Le Saint-Esprit qui est à l'œuvre de manière particulière. Et donc, c'est un moment où Dieu intervient de manière surnaturelle pour certifier vraiment la naissance la venue du Messie. Quand on lit les Écritures, hein, quelqu'un avait dit une fois, oui, la Bible, c'est le livre des miracles. De la première à la dernière page, tout n'est que miracle. Est-ce que c'est vrai? Question piège. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. D'accord? En fait, quand on lit l'Écriture, il y a des périodes où il y a des miracles. D'accord? On trouve beaucoup de miracles. Moïse, par exemple, chaque fois que Dieu intervient d'une manière particulière dans sa révélation, les choses sont assorties de miracles. Donc, pour l'époque de Moïse, il y a l'époque de Élisée et Élie, Élie et Élisée, et puis l'époque de Jésus et les apôtres. D'accord? Ce sont les trois gros Paul, je crois, où on trouve vraiment des miracles. Et puis entre, il pourrait avoir des choses, mais c'est pas, il n'y a pas une profusion de miracles ici. Et donc, quand Jésus vient, c'est un événement particulier. La Bible dit que Jésus, c'est la révélation suprême. Hein. Dieu nous a parlé par les prophètes, par les songes, il disait, et avec Jésus, in fine, il parle par le Fils, hein, lui-même. C'est lui qui est l'expression suprême de la parole de Dieu. Et dans sa prédication, si vous lisez la prédication de Pierre à la Pentecôte, il parle aussi beaucoup des miracles que Jésus a fait, hein, comme attestant qu'il venait vraiment de Dieu. Donc ici, pareil, on voit, Matthieu montre en tout cas que des miracles, hein, aussi ont accompagné Jésus-Christ dans sa venue et après plus tard aussi dans son ministère. Donc voilà pour cette troisième partie d'enseignement. Et puis dernièrement, on pourrait dire, hein, Matthieu montre aussi que Jésus-Christ est digne de quoi ? D'être adoré. Il est digne d'adoration. Jésus est digne d'adoration. La première chose que les mages disent, c'est « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous sommes venus pour l'adorer. » Et puis, il y a tout un cheminement, ils arrivent à la fin, qu'est-ce qu'ils font ? Il l'adore véritablement. Hein. Donc Jésus est digne d'adoration. Okay, parce que les Juifs le rejetaient. Il dit, voilà, compte tenu de toutes ces choses, il est digne d'adoration. Il parle des présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Hein. Bon, on ne va pas rester sur ce que ça pourrait représenter, mais qui sont des choses précieuses, en tout cas, qu'ils ont apportées pour Christ. Et il montre par là que Christ est digne d'adoration. Et son intention, l'intention de Matthieu ici, c'est de montrer aussi que ce Jésus, il est digne d'être adoré comme Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, et non seulement par les Juifs, mais aussi par toutes les nations. Ouais. Donc ce Jésus, hein, il est, je sais pas si je vous ai mis ça, oui, Matthieu montre que Jésus est digne d'être adoré comme Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, non seulement par les Juifs, mais aussi par toutes les nations. Et on trouve ce verset dans Matthieu, verset 8-11, Matthieu 8-11, pardon, qui dit « Je vous déclare, c'est Jésus qui parle, il dit « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, tiens, ça fait penser aux mages, hein, et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Donc il y a beaucoup qui vont venir, ils seront des adorateurs de Dieu de l'Orient, de l'Occident aussi. Bon, voilà, ça c'est pour le texte un petit peu. Donc on a vu les personnages, leur attitude vis-à-vis de la venue du Messie, ce que Matthieu enseigne en fait, en présentant aussi ce texte concernant Jésus, qu'il est digne d'adoration, que Dieu est intervenu de manière surnaturelle, hein, concernant Christ ici. Et puis aussi, on a dit que qu'il est bel et bien le roi et le Messie, et puis qu'il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Donc, on n'oublie pas que Matthieu écrivait à des Juifs, donc il fallait qu'il prouve ça. Mais on pourrait se poser la question, dernière question pour nous, quelle application on peut tirer de cela ? J'ai oublié de vous mettre des trous ici, j'ai mis les réponses, hein, j'aurais dû mettre des trous, mais bon, ne regardez pas encore les réponses que j'ai mises ici. Hein. Ne regardez pas. Je sais qu'il y en a quasiment que j'ai lu, mais on lit ça, on comprend que Matthieu écrit avec cet enseignement-là. Ok, maintenant pour nous, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, comme application de cela? Vous avez lu ça à la maison, vous avez fait votre petite étude, vous avez écrit les personnages, leurs réactions, ce qu'ils ont fait, ce que Matthieu veut enseigner, la vérité qu'il enseigne. Maintenant, comment on peut appliquer ça? Qu'est-ce qu'on pourrait appliquer? Qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme enseignement de cela? Ne regardez pas le papier.
Jésus est digne d'adoration.
Très bien, Jésus, il est digne d'adoration. Ok? Il est digne d'adoration. Donc, en regroupant tout ce qui est dans le texte un peu, hein, c'est d'avoir au moins une application que vous pouvez avoir. Oui? Voilà. Oui, on peut dire qu'on peut voir que face à Jésus, il y a des réactions diverses qui sont suscitées. Ils ne laissent pas. Enfin, on a dit que les scribes étaient indifférents, mais c'est une indifférence qui n'en est pas une vraiment. Ça veut dire quelque chose, cette indifférence, ok? Donc, ça suscite forcément des réactions. Quoi d'autre? Oui. Oui. Jésus est le roi des rois. Très bien. Quand je parle de point d'application, c'est qu'est-ce qu'on peut dire et vers quoi ça peut nous, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que ça va m'engager à faire quoi? Adorer? Adorer, oui. Des rois, d'accord. Très bien. Bon, je vais pas vous faire languir plus. On va prendre que le premier point. Ne lisez pas les autres, hein. Comme ça, on va essayer de voir. Premièrement, moi, j'ai noté ceci. C'est que l'écriture, c'est le moyen nécessaire et suffisant. Je le mets comme ça, mais on aurait pu le mettre autrement, hein. Qui permet de rencontrer précisément Jésus-Christ. Comment est-ce que les mages sont venus à Jérusalem? Guidés par une étoile. Comment ils ont su qu'il fallait aller à Bethléem? En songe? Non, pas en songe. Par les Écritures. Ils sont venus jusqu'à Jérusalem, d'accord, en songe, mais quand il a fallu trouver précisément le Christ, eh bien, il a fallu qu'il y ait des gens qui connaissent l'Écriture qui disent « c'est à Bethléem, selon ce qui a été écrit par le prophète ». D'accord? Donc, on rencontre Christ dans l'Écriture. On rencontre Christ dans l'Écriture. Et il n'y a pas d'autre moyen de le connaître que par la parole révélée de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais on rencontre Christ par dans l'Écriture. Donc je l'ai mis comme ça. L'Écriture est le moyen nécessaire et suffisant qui permet de rencontrer précisément Christ. Jésus disait en Jean, chapitre 5, verset 39, il dit, vous sondez les Écritures, et il sondait l'Ancien Testament, hein, à cette époque. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. D'accord? Donc, l'Écriture rend témoignage de Christ. Pour rencontrer Christ précisément, il faut l'Écriture. Ce que Dieu nous a révélé. Deuxième application, peut-être que vous en avez une que vous pouvez voir avant de regarder le papier. Non? Allez. C'est que une grande connaissance, ben on voit que les scribes avaient de la connaissance, hein. Connaissance de Christ. Les mages n'en avaient pas beaucoup. Mais on voit qu'une grande connaissance de faits, de choses qui concernent Christ, n'implique pas forcément la connaissance de Christ avec le cœur. On peut avoir beaucoup de choses que l'on connaît de Christ sans avoir une connaissance expérimentale de Christ. Et on le voit avec les scribes et les principaux sacrificateurs. On est surpris de leur sécheresse, de leur attitude. Ils trouvent aisément et précisément ce que Hérode demande. Imaginez, je sais pas, si on vous disait, quelqu'un venait là, quelqu'un vous rencontre dans la rue, il dit, oui, mais comment sait-on que Jésus devait naître à Bethléem? Et vous avez dit, je sais pas moi, hein? D'accord? Ou pourquoi est-ce qu'il a été amené hors d'Égypte quand il était enfant? Matthieu dit, c'est pour que l'Écriture s'accomplisse. On pose cette question à un scribe. Il répond tout de suite. Hein? Il répond tout de suite. Ils connaissent à fond le texte. Il n'y a pas de méconnaissance de la part. Et quand Hérode pose la question, où est-ce que le Christ doit naître? Michée l'a dit. Ils peuvent citer ça. Mais en même temps, ils peuvent le dire et rester froid. Et on voit que la connaissance que l'on a dans la tête n'implique pas forcément une connaissance du cœur, Christ. Et donc, il faut pas se targuer, je connais ceci. C'est bien de connaître, il faut connaître. Mais il faut pas croire que parce que l'on connaît, tout est ok. Non, il faut que la connaissance mène à quoi? L'adoration. La connaissance mène à l'adoration. Ça, c'est ce qu'on peut dire en regardant ici. Troisièmement, c'est un peu lié à ce que je viens de dire ici, hein. On peut dire que ceux qui ont de grands privilèges religieux ne manifeste pas toujours de l'intérêt. Je cherche une autre manière de le dire. Je voulais dire ceux qui sont proches de la, comment je vais dire, quelque part, hein, j'avais envie de dire proches de Christ, dans le sens, ils ont une proximité avec les choses qui concernent Christ. D'accord ? Ne sont pas forcément ceux qui montrent un intérêt plus grand en lui. Les scribes avaient beaucoup de connaissances. La Bible dit que, je vais lire ça, il dit dans Romains, il dit que l'avantage du juif par rapport au païen est énorme. Il dit, il est grand de toute manière, tout d'abord parce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ils ont été les dépositaires des oracles de Dieu. Donc, ils ont beaucoup de privilèges. D'accord ? Mais, c'est pas pour cela qu'ils honorent Dieu. Et on peut avoir, par notre cursus, parce qu'on a été un petit enfant dans l'église, on a grandi, on peut avoir beaucoup de privilèges, beaucoup de connaissances, beaucoup de choses, et c'est des privilèges par rapport à d'autres qui n'ont pas des choses. Et pourtant, ne pas montrer un intérêt à Dieu. Ça rejoint un peu le point d'avant, mais ne pas montrer un peu de l'intérêt. Donc c'est pas c'est le privilège que l'on a qui est une chose importante. Il faut aussi s'intéresser. Quand les scribes entendent cela, ils sont pas intéressés. Par contre, ceux qui viennent de très loin, d'accord, ils ont fait des efforts. Alors parfois, on a le privilège d'habiter à côté. Et puis on vient pas. Et puis il y en a d'autres qui habitent loin et qui font l'effort de venir. C'est un privilège que Dieu nous donne, la proximité parfois, hein. Okay. Et quelqu'un a dit parfois quand l'église est proche, comment il a dit ça, je n'arrive pas à le redire, mais l'église s'éloigne parfois. C'est-à-dire quand la possibilité de se réunir est proche, parfois l'église elle-même, le troupeau, eh bien il s'éloigne. Et on connaît des personnes qui font beaucoup d'efforts pour traverser, pour arriver à un lieu, comme ces personnes-là, ils vont braver la pluie, le mauvais temps, etc. Ces hommes ont fait des heures et des heures de voyage pour arriver jusqu'à Jésus, sans voiture, avec un chameau, il y a des bosses, ça devait pas être confortable du tout, ça, hein, etc. Et puis maintenant, s'il pleut, on a des voitures chauffées, climatisées, tout ce qu'on veut, ça roule, c'est de l'huile sur la route, hein. Il y a de l'embouteillage, je peux pas venir. Je suis fatigué. J'ai du travail. Tout est un obstacle. Tout est un obstacle. Et on a des privilèges que Dieu nous donne. Privilège d'avoir toute la parole, mais privilège d'avoir tous les moyens technologiques que les autres n'avaient pas. Hein. Quelqu'un disait une fois, il disait, vous imaginez que le lit sur lequel vous dormez est des centaines de fois plus confortable que le lit qu'avait Pharaon pour se coucher, hein. On est bien là, hein. D'accord. Mais on trouve que c'est difficile, n'est-ce pas? On a des privilèges, mais on ne montre pas forcément de l'intérêt avec tous ces privilèges. Et je crois que ce texte nous enseigne que nous devons montrer, avec le privilège que Dieu nous donne, beaucoup d'intérêt pour les choses du Seigneur. Braver la difficulté quand il faut la braver, pour être là où Dieu nous veut, au moment où il nous veut. Et puis, le dernier point ici que je mets sur le papier, c'est que ce n'est pas la quantité, on voit ça, de révélation qui est quelque chose, mais ce que l'on fait avec la révélation que l'on a, qui est disponible. Les scribes avaient beaucoup de révélations. Les mages avaient peu de choses. Ils connaissaient rien, ils savaient même pas. Les textes, ils viennent, ils savent même pas où c'est. Ils vont à Jérusalem. Et quelqu'un faisait remarquer que leur question montre qu'ils avaient déjà demandé à beaucoup de gens dans la ville des choses. Hein. Un peu la manière de poser la question, ça veut dire qu'ils ont cherché, tâtonné pour trouver où ils savaient rien. Ils n'avaient pas de connaissance, aucune connaissance. Mais avec le peu qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru, ils ont cherché et ils ont trouvé et ils ont adoré. Et donc, si on compare la somme de connaissances que nous avons aujourd'hui par rapport à celle que les scribes avaient, est-ce qu'on en a plus? Oui. Alors, peut-être qu'on ne connaît pas plus parce qu'on n'étudie pas plus, mais la connaissance disponible, on a toute la révélation de Dieu. D'accord ? On nous parle des scribes dans Matthieu, mais les scribes ne connaissaient pas l'évangile de Matthieu. Hein. Ça n'existait pas encore. D'accord ? Donc nous, on a toute la révélation de Dieu. D'accord ? Mais malgré ça, ce qui est important, c'est pas de vouloir encore plus de révélations. Il y a des gens qui veulent encore des choses en dehors de la parole de Dieu. Hein. Oui, je sais, la Bible dit ça, mais si seulement Dieu pouvait me parler autrement, que je sache encore un petit peu plus de... Non, on a tout ce qu'il faut. Et ce qui est important, ce que nous montre Matthieu avec les mages, c'est que ce n'est pas la quantité de révélations qui est un problème, c'est la foi que l'on a dans la révélation disponible. C'est ça qui est la chose la plus importante. Ils ont cru en Jésus en ne voyant qu'un petit enfant. Ils n'ont pas attendu en disant, bon, on va attendre qu'il grandisse, qu'il parle, qu'on pèse un peu son enseignement, qu'on voit vraiment si c'est vraiment... Non, ils ont vu un petit enfant sur les dans les bras de sa mère, peut-être, qui pouvait pas parler, qui pouvait pas dire, qui pouvait rien dire. Et ils ont cru que c'est le roi des Juifs, parce qu'ils ont eu cette conviction venant de Dieu que c'est le roi des Juifs. Alors que les scribes avaient toute la connaissance, pouvaient aller se rendre compte des choses, voir les accomplissements, et ils n'ont pas cru. La foi réelle n'exige rien de plus que ce que Dieu nous révèle. La foi réelle n'exige rien de plus que ce que Dieu nous révèle. Le brigand sur la croix, il n'exige pas de voir le palais ou la couronne sur la tête de Jésus pour demander à Dieu, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Il le dit au moment où Christ est dans son état le plus dégradé. Il croit que c'est le Seigneur de la terre, que c'est le roi des rois. Il a certainement dans son cœur, en regardant Jésus vivre, eu cette révélation de la part de Dieu, et ce petit peu de révélation qu'il a, il met foi là-dedans, et Dieu le sauve. Donc ce n'est pas la quantité de choses que l'on a qui est importante. C'est ce qu'on fait avec ce que Dieu nous montre. Hein. C'est toujours, on dit toujours ça. Hein. C'est comment on obéit à ce que l'on sait devoir obéir. C'est ça le problème. Comment on met la foi là où on sait qu'on doit la mettre. Est-ce qu'on obéit à Dieu? Est-ce qu'on croit à ce que Dieu nous dit? Et donc la question pour nous, c'est que faisons-nous de cette révélation qui est disponible? Est-ce que nous exigeons de voir plus? Ou bien est-ce que nous croyons simplement ce qui est écrit, comme ces mages, ce qu'on leur dit? Quand les scribes ont dit ça à Bethléem, ils sont allés à Bethléem. D'accord. Ils n'ont pas mis en doute la parole. Voilà, je m'arrête ici. C'est un beau passage qui nous enseigne beaucoup de choses. Et je pense qu'à cette période de Noël, nous pouvons méditer sur ces choses. Ce que nous faisons avec ce que nous avons reçu, comment nous obéissons à la parole de Dieu. Est-ce que cette parole trouve la foi, comme on l'a vu dimanche après-midi, chez nous, hein? Est-ce qu'elle agit en nous, comme elle doit agir véritablement, comme la parole de Dieu? Ou est-ce que nous voulons autre chose? Ou est-ce que nous sommes froids, indifférents face à cette parole? Que le Seigneur nous aide dans cela. Alors, quel titre on pourrait donner ici à ce passage? Je pense que le titre que Jean-Pierre a donné était pas mal, hein. Oui, mais Jean, tu as autre chose, ça? Non. Ah bon, je veux que tu levais le main. Moi, j'ai mis tout simplement, venez adorer le roi. C'est comme ça que je l'ai mis, mais vous pouvez mettre autre chose, hein. Venez adorer le roi. C'est une invitation à venir adorer le roi. Et à le faire en nous basant sur sa parole, sur ce qu'il a révélé pour nous à travers sa parole. Il est digne, comme a dit Charles, d'adoration. Il est digne d'adoration. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole, et nous te demandons que tu nous aides encore à la méditer, à l'étudier chaque jour, à ne pas passer à côté de ce que tu veux nous enseigner. Et Seigneur, donne-nous de ne pas être comme ces scribes qui, tout en ayant la lettre dans leur esprit, dans leur tête, Seigneur, n'ont pas appliqué leur cœur à te suivre. Et nous te prions que tu agisses au-dedans de nous par ton esprit, que tu nous rendes dociles, que tu disposes nos cœurs à ta parole, que tu l'inclines, que tu inclines nos cœurs vers ta parole, Seigneur. Merci encore pour toutes ces choses que nous avons, que tu nous donnes, et donne-nous vraiment à cette période qui vient d'être encore davantage avec cette attitude d'adoration et aussi être donne-nous d'être un bon témoignage auprès de ceux qui ne te connaissent pas afin que nous puissions leur faire savoir que tu es le roi, le Seigneur, celui qui est digne d'adoration. Te demandons ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.